Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Salut tout le monde et bienvenue à vous dans cette émission qu'on pourrait intituler « Sortez vos papiers », petite histoire de la construction de l'image de l'étranger avec l'un de nos historiens maison. Salut Cédric.
Salut.
On le rappelle, Cédric, tu es enseignant, professeur d'histoire-géographie. Je ne sais pas si c'est la meilleure caution scientifique qu'on pourra présenter pour cette émission, mais c'est déjà pas mal quand même.
C'est la seule que j'ai, donc on va se contenter de ça. Sortez vos papiers ou comment l'État veut de plus en plus contrôler les individus, assurer la sécurité publique. Et pour l'État, en fait, assurer la sécurité publique, améliorer son efficacité en termes militaires, fiscales, passe par le contrôle des individus. Et contrôler les individus, c'est d'abord les identifier très clairement et ensuite, effectivement, contrôler les Français et les étrangers, puisque forcément va se mettre en place progressivement une identification de ces étrangers et aussi de groupes qui sont à cheval sur les deux identités, notamment les nomades et aussi autres groupes problématiques, les juifs.
À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition « Les Juifs et la France ». Pendant les trois premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs.
Si les étoiles jaunes s'étaient montrées chez nous il y a 10 ans, on aurait vu clair.
C'est une simple mesure de défense des Français contre des étrangers à leur race qui ont envahi silencieusement notre sol. Or, le mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs.
Il y en a qui le portent sur leur figure, mais enfin pas tous.
Oh, la question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue.
Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Putain, c'est écrit sur ma gueule. Un cordon sanitaire dressé autour de mon CV. Et ouais, y'a de quoi s'énerver.
Contrôler les gens, contrôler la population, c'est aussi la référencer et l'afficher. Et ce rôle d'inventorier a longtemps été dévolu à l'Église, avec les registres paroissiaux, où on notait les naissances, les mariages, les baptêmes, les trucs comme ça.
Dès le XIIe siècle, vous avez une augmentation de la population qui oblige les populations, pour se nommer et pour se reconnaître, à mettre en place progressivement les patronymes. C'est à ce moment-là que se mettent en place les noms de famille, qui peuvent être soit des prénoms, Martin, par exemple, le plus courant. C'est aussi des professions, forts, alors forgerons. Ça peut être des noms de lieux, Delaunay, par exemple, c'est près d'une plantation d'aulne, etc. Donc, il n'y a pas que dans la noblesse, mais aussi de voir que très largement, on commence à donner des patronymes qui permettent d'identifier les gens parce qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. Et ensuite, l'Église commence à tenir des registres paroissiaux sur lesquels elle enregistre, en fait, tous les actes de la vie, de la naissance à la mort, en passant bien sûr par le mariage. Mais c'est surtout en fait la concordance de la volonté de l'Église d'encadrer, d'encelluler les individus, mais aussi celle de l'État moderne qui s'affirme progressivement au XVe et surtout au XVIe siècle, que vient l'idée effectivement de dénommer les gens, de les reconnaître très précisément, afin d'améliorer l'efficacité fiscale des États qui se mettent en place, d'éviter également les problèmes juridiques quant aux captations d'héritage illégal. Et l'affaire la plus connue, puisqu'il y en a eu une adaptation cinématographique fort populaire, ça a été l'affaire Martin Guerre, l'histoire de ce soldat revenu soi-disant dans son village, reconnu par sa femme, ses voisins, et qui s'est avéré être un imposteur.
Vous êtes bien Jean l'Espagnol et Valentin Rougier?
Oui, monsieur. C'est ça, monsieur.
Vous avez demandé à voir cet homme. Vous le connaissez? Qui est-ce? Vous pouvez le nommer?
C'est Arnaud.
C'est bien lui qu'on appelle Portet. Et d'où est-il?
Il est de chez nous. Il est d'utile.
Vous êtes sûr?
Il y a bien longtemps qu'il est parti. Mais c'est lui.
Ce n'est pas Martin Guerre d'Artigat.
Non. C'est bien Arnaud d'Util. C'est Pensette.
Mais regardez-les. Regardez-les. Vous voyez bien qu'ils sont envoyés par mon oncle. Envoyés et payés. Regardez-les. Ils ont la honte sur les joues. Ce sont deux habitants d'Util. C'est vérifié.
Qu'est-ce que ça prouve? Mon oncle est influent. Pourquoi je me serais fait passer pour un autre?
Pour avoir une maison et une femme.
Par le sang de Dieu, mais c'est ma maison! C'est ma femme! C'est moi qui suis lésé, c'est moi qu'on accuse!
L'affaire Martin Guerre qui fut l'une des affaires d'imposture les plus célèbres, mais il y en a eu plein d'autres.
Oui, il y en a eu plein d'autres et ça pose un problème, celui du souci de sécurisation. C'est-à-dire que l'État veut renforcer la sécurité vis-à-vis de tous ces vagabonds, mendiants, déserteurs, toutes ces populations mobiles, pauvres, qui posent des problèmes de sécurité, et donc en fait ficher, nommer, mettre en place des papiers pour circuler d'une région à une autre, d'une province à une autre, ça permet d'éviter ces mouvements de population extrêmement dangereux pour l'ordre public. Et cette demande de sécurité de la population, hein, soumise au XVIe, XVIIe siècle, à ces mouvements de chauffards qui aimaient chauffer les pieds des gens, tous ces mouvements de révolte populaire qu'on peut voir certes d'un œil sympathique, car il y avait là des pauvres gens chassés de leurs terres, mais aussi pas mal de maraudeurs et autres canailles, effectivement, que l'État voulait emprisonner. Donc là, il y a un souci de sécurisation vis-à-vis des désordres civils, mais aussi un souci de contrôle des individus vis-à-vis des questions sanitaires. Les grandes pestes se propagent notamment par ces populations mouvantes. Et ce qui a fait date, c'est la peste de 1720 qui est entrée en fait par le port de Marseille. Marseille était une grande ville commerçante, elle accueillait donc des bateaux venus de l'Est, et dans ces bateaux venus de l'Est sont arrivés des gens qui étaient malades, porteurs de la peste, et la maladie s'est répandue en fait dans toute la Provence. Les commerçants étaient en fait des vecteurs bien involontaires, mais des vecteurs de la transmission de la maladie sur toute la région. Et là, le pouvoir royal est intervenu de façon assez stricte pour empêcher tout mouvement de population en dehors de la Provence, ce qui a permis d'endiguer les mouvements. Donc vous voyez, nommer les gens, leur donner des papiers, contrôler leurs mouvements, derrière les préoccupations légitimes que l'on peut comprendre derrière ça, qu'elles soient sanitaires, de sécurité, d'efficacité fiscale, on voit apparaître un sentiment de méfiance vis-à-vis de l'étranger, de l'autre, du nomade qui a en lui cette image qui se construit au fur et à mesure d'une menace indéterminée et souvent complètement infondée, se dégage cette image progressive d'une image très négative.
Ah bon, c'est pas inné dans le caractère humain? On n'aime pas spontanément l'étranger?
Non, de voir que les bohémiens, par exemple, aux époques médiévales, si on prend les 12e, 13e siècle, étaient très très appréciés dans les cours des châteaux où ils donnaient des spectacles, notamment de montreurs d'ours. C'est devenu une image d'épinal, les montreurs d'ours. Mais les bohémiens étaient très appréciés pour les divertissements qu'ils entraînaient avec eux. Et souvent, bien sûr, ils faisaient le spectacle à la cour du seigneur local pour se nourrir et remplir les poches, mais ils faisaient aussi le spectacle dans les villages et ils étaient très très appréciés.
Tu es en train de nous dire que ce qui pourrait être les ancêtres de nos fameux Roms étaient déjà plus français que les gens qui ne l'étaient pas encore. Ces gens-là étaient déjà en France avant les autres.
Oui, il y a eu plusieurs vagues de mouvements de ces populations venant de l'Est de l'Europe. Et certains étaient dits qu'ils étaient très purs d'un point de vue sanguin, parce que justement, comme ils vivaient entre eux, etc., ils étaient très très réputés. Et bien sûr, il y en a qui sont là depuis des centaines et des centaines d'années en fait.
Et probablement bien avant certains Français dits de souche, n'est-ce pas?
N'est-ce pas?
N'est-ce pas?
N'est-ce pas?
N'est-ce pas?
Oui, mais vous, c'est ça que du coup la meilleure candidate pour le Front National, ce serait pas Marine Le Pen?
Ben non, parce que Choufa, ça ne marchera pas.
Choufa,
les Français ne sont pas aussi
sots que cela.
Choufa, c'est une formule nord-africaine.
Pchit.
Oui, ça, pchit, si vous voulez.
D'accord.
Parce que moi, je suis immigré, mais trimaran.
Toujours au cœur de notre petite histoire de l'image de l'étranger à travers les âges, on parlait du fichage et du référencement des populations. Une population qu'on contrôle mieux et qu'on fiche mieux, c'est une population qu'on peut mieux faire cracher au bassinet. Au niveau des impôts, ce sont des gens qu'on peut aussi mieux compter, donc mieux envoyer faire des guerres, hein, pour grossir les armées. Et au XVIIIe siècle arrive une invention assez révolutionnaire, si j'ose dire, c'est l'invention des documents papier, de l'identité papier, avec les passeports et les sauf-conduits.
Oui, donc là on est vraiment dans l'état moderne, c'est-à-dire qu'avant, un simple extrait baptistal permettait de circuler d'une province à une autre. Mais devant la recrudescence des déplacements de population, hein, notamment liés au développement du commerce et des échanges, l'État français met en place des passeports qui vont être exigés par la maréchaussée à l'entrée des villes, et celle-ci vous interdit le passage notamment des ponts si vous n'êtes pas équipé de ces passeports. Donc c'est la première naissance d'une police exigeant des papiers pour circuler sur un territoire, mais entre la théorie et la pratique, il y a quand même des distances. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le manque d'hommes de la maréchaussée publique empêche véritablement un contrôle très strict. Mais dans l'idée de contrôler, elle est déjà là. Il manque l'efficacité d'un État moderne.
Il faut rappeler qu'à cette époque, là on est au XVIIIe siècle, mais jusqu'à une période très avancée, on ne circulait pas sur ce qui est aujourd'hui appelé la France, d'une région à une autre, aussi facilement. C'est pour ça qu'à l'entrée de certaines villes, on voit des barrières d'octroi. Alors c'est pas seulement pour le commerce, c'est aussi pour contrôler les gens qui rentrent et qui sortent.
Ça permet de contrôler très facilement, hein, les gens qui rentrent et qui sortent. Il faut voir qu'une ville, sous l'Ancien Régime, se détermine par le fait qu'elle soit entourée de remparts. Donc il est assez facile, tout compte fait, de contrôler les entrées, notamment quand vous avez un fleuve et donc un pont qui est un passage obligé, vous contrôlez strictement la population. Donc là, on commence à avoir un État, avec l'émergence de l'État moderne au 15e, 16e siècle, un État qui veut contrôler les individus, ce qui était jusque-là complètement incongru comme idée. À l'époque médiévale, les individus circulent à peu près comme ils veulent, il n'y a pas de contrôle.
Tant qu'ils se soumettent à l'ordre établi et qu'ils payent leurs impôts.
Voilà, alors de voir qu'il y avait effectivement une population de serfs qui était attachée à la terre, mais le reste de la population paysanne pouvait changer de fief à peu près comme ils le voulaient en payant un petit impôt. Les pouvoirs publics, de toute façon, avaient l'incapacité de contrôler les individus, mais même n'avaient même pas l'idée de le faire. Enfin, c'est quelque chose qui est une pensée moderne. Comme à bien des égards, hein, le 16e, 17e marque les évolutions dans la pensée du rapport entre les États et les individus. Il y a quelque chose qui change là, à ce moment-là. Ce qu'on appelle en fait le siècle des Lumières, toute la modernité, on s'aperçoit que c'est tout compte fait une diminution de la liberté des hommes.
Oh là là, je savais qu'on était subversif dans cette émission. Alors, est-ce que nos fameux passeports et autres sauf-conduits du 18e siècle concernent toute la population qui vivent sur ce qu'on appelle aujourd'hui la France, ou c'est seulement pour certaines populations?
C'est les populations qui sont appelées en fait à changer de province. Ce qui reste un acte quand même relativement rare. Les mouvements de population se limitent à une petite frange de celles-ci qui sont appelées à l'extérieur, soit pour des raisons commerciales, soit pour des raisons militaires. Tout compte fait, ça représente 10-15% de la population. Mais la notion d'étranger n'est pas encore clairement fixée.
Je suis une bande ethnique à moi tout seul. C'est écrit sur ma gueule. Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon? Toujours à 40 000 quand les rats sortent des bidonvilles avec des bidons d'huile. Ces trois équipes de télé tout au plus, caméra au point, qui m'attendent à l'arrêt de bus, qui sont les vraies stars du JT, les gentils condés ou les grands méchants noirs, il va falloir se décider.
Petite histoire de la vision de l'étranger ou de la construction de l'image de l'étranger dans ce qu'on appelle aujourd'hui la France. On change de régime, là, de l'ancien, on va passer à un nouveau, la Révolution française, 1789, il y a un basculement là.
Oui, il y a un basculement, parce que là, on a l'idée d'un État qui très clairement veut contrôler les individus. Il veut contrôler les individus, notamment en mettant sur la touche l'Église, qui jusque-là nommait les individus, enregistrait leur naissance, leur vie, leur mort. L'État civil se met en place à partir de 1792, donc un État civil contrôlé par l'État, qui justement va enregistrer tout le monde à des fins fiscales, sécuritaires et militaires. puisque 1792, c'est aussi la naissance de l'armée de conscription. Donc il faut bien que l'on sache quel âge vous avez, où vous êtes né, et si vous êtes apte ou non pour le service.
Et combien vous êtes.
Sur combien d'hommes on peut compter pour aller taper sur la tête des petits voisins. Cet état révolutionnaire, en fait, quels que soient les régimes révolutionnaires qui se succèdent, que ce soit la monarchie constitutionnelle ou la République ou le consulat après, a un souci de contrôler les individus. On proclame les libertés individuelles, mais on a un État de plus en plus puissant qui contrôle les individus. Mais d'un autre côté, on a des choses qui, avec le recul et quand on ne sait pas, paraissent surprenantes. Ainsi, par exemple, on disait que pour devenir français, il suffisait de le vouloir. Et c'est ainsi qu'il y a deux personnages emblématiques, mais il y en a eu d'autres, hein, qui sont devenus français en devenant en fait députés. Ça a été le cas de Jefferson. L'Américain Jefferson a obtenu la nationalité française. Il était aussi français. Il a même été député. Et mon préféré, c'est Anarkasis Klutz.
À tes souhaits.
Donc Anarkasis, c'était pas son vrai prénom. Hein. Je sais plus comment il s'appelait, Klaus. Enfin, il était prussien hein, d'origine, comme son nom l'indique. Il s'est fait renommer Anarkasis. Et Anarkasis Klutz, qui était proche des hébertistes, hein, l'aile ultra-gauche révolutionnaire, est devenu citoyen français. A été, parce qu'il a participé à tous les mouvements de 89, 92, etc. Et il est un petit cadet de famille prussienne, hein, un peu révolté contre l'ordre prussien. Donc il était en France et puis il est tombé au bon moment. Et Anarkasis Klutz est devenu français. Bon, ça lui a pas porté chance, il a été guillotiné par Robespierre. Mais voilà, il était devenu français, ce petit prussien, parce qu'il se sentait proche des idées révolutionnaires. Donc c'est l'ambivalence hein, de cet héritage révolutionnaire. C'est-à-dire à la fois une ouverture sur l'étranger, en disant que le fait d'être français, c'est pas d'être d'une race, d'un sang, ou même d'une culture, c'est le fait de croire et d'adhérer aux valeurs françaises nouvelles de la Révolution, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et d'un autre côté, cet État, il veut contrôler les individus, les nommer, les recenser, et en faire de bons petits soldats et de bons petits payeurs hein, pour le fisc.
Alors on peut imaginer que cet élan de fichage va se poursuivre avec Napoléon, l'un des pères fondateurs de la nation et de l'État moderne.
Ouais, Napoléon accélère ce phénomène de construction de l'État moderne.
Il arrive au pouvoir quand ?
Il arrive en plusieurs temps. Donc, il y a le 18 Brumaire, hein, 1799. En fait, vous avez l'établissement hein, du consulat. Et ensuite, il va devenir empereur dans la foulée. Mais Napoléon avait cette volonté à la fois de prolonger l'héritage révolutionnaire sur un certain nombre de points et à la fois de rétablir un État fort, un État puissant. Et il va, pour construire son État fort, s'appuyer sur tout le travail de la Révolution française qui a consisté à renforcer les structures administratives de l'État, à les globaliser sur le territoire en détruisant tous les pouvoirs locaux, tous les anachronismes hein, dans l'ancien régime qui était en fait un empilement d'administrations de siècles sur les siècles et qui était totalement inefficace. Et là, Napoléon Bonaparte en fait, met le point final à une réorganisation totale de l'administration française, départementalisée, extrêmement efficace. Et là, très clairement, on a une volonté de contrôler l'individu, parce que bien sûr, l'égalité était quelque chose pour lui qui comptait, du moins l'égalité civile, mais les libertés, disons, il s'asseyait un peu dessus. Et il met en place la première police secrète efficace. Alors c'est l'anecdote bien connue hein, des quatre notables hein, se retrouvant autour d'une table, commençant à discuter les uns avec les autres, se posant des questions relativement indiscrètes quant à leur positionnement vis-à-vis de Napoléon. Et au fur et à mesure de la discussion, il s'aperçoit que tous les quatre sont des espions en fait à la solde de Napoléon et qui s'espionnaient les uns les autres parce que les uns les autres se soupçonnaient. Hein, ils lançaient des hameçons en disant qu'ils étaient un petit peu contre l'empereur pour essayer d'attirer à eux d'éventuels renégats et opposants à l'empereur.
From the east and they're coming from the west.
1815, c'est la fin du règne de Napoléon.
Alors c'est la Restauration avec Louis XVIII. Donc Louis XVIII arrive à convaincre assez facilement Talleyrand, qui a fait un peu tous les régimes politiques depuis 1789.
Qui c'est ça, Talleyrand ?
Alors Talleyrand était un évêque à l'origine, donc un évêque marié, qui avait des enfants. Et
normal.
Et il est le seul évêque de France à avoir prêté le serment constitutionnel de l'Église. Et c'est lui d'ailleurs qui présidait la fête de la Fédération le 14 juillet 1790. Et cet homme a su en fait se mettre au service de tous les régimes politiques qui se sont succédés. Alors de voir qu'il a eu une carrière effectivement très sinueuse, donc il disait que c'était pas la girouette qui tournait mais c'était le vent, et que lui était au service de la France, quoi qu'il arrivait. Alors Napoléon avait beau dire que c'était une merde dans un bas de soie, lui disait que de toute façon il en avait rien à faire, il suivait ça. Et Talleyrand eut un rôle important dans la transition entre Napoléon et Louis XVIII, dans la permanence de cet état moderne. Il a notamment convaincu Fouché, qui était l'homme de la police de Napoléon, de se mettre au service de Louis XVIII. Ce que Fouché a accepté, et dont il a été victime très rapidement après, il a été victime de son passé, parce qu'il a été régicide, c'était un homme du peuple, et il a été manipulé par Talleyrand. Évidence. Mais Louis XVIII en fait, récupère cette logique de contrôle des individus. Ensuite, Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe qui sont confrontés à des révoltes républicaines, des menaces républicaines, la naissance des mouvements ouvriers, veulent contrôler aussi les individus.
Tout savoir sur l'individu, le démasquer, le déchiffrer, l'ouvrir.
Vous commencez par ces tiroirs, je suppose.
Acheter la femme qu'il aime. Et extorquer à ses enfants ce qui va lui coûter son honneur, peut-être sa tête. Ah, quel plaisir, monsieur, que de mettre un homme en face de l'inavouable. Faut voir sa figure à mesure qu'on le découvre, épouvanté, méconnaissable.
J'envie le roi dont vous serez ministre. En un mois, il en saura plus sur tous les siens que l'histoire ne lui en a appris en 10 siècles. Buvons. Vous n'avez pas fait grand honneur à mon cognac. Si vous le permettez, ce n'est pas de cette façon que l'on doit boire le cognac. On prend son verre dans le creux de sa main.
Vos belles manières, monseigneur. Elles sentent la mort. Nous ne sommes pas, vous et moi, du même temps. Le vôtre est en train de crever d'une indigestion de politesse. C'est le mien qui lui succédera. Le vrai pouvoir sera aux subalternes, aux espions, au délateur. Personne ne saura jamais s'il est en règle, car la règle sera équivoque. Équivoque, mais redoutable. C'est ainsi que je veux la police. Indéfinie, protéiforme, invisible et toute puissante. Elle sera dans chaque conscience. Alors là, monsieur, ce sera l'ordre.
Poursuivons notre petite histoire de la construction de l'image de l'étranger en France. On va sauter les époques. On était en 1815 sous le règne de Louis XVIII et puis on va faire plusieurs bonds dans le temps, Cédric.
Oui, on va passer Louis XVIII, puis Charles X qui est renversé en 1830, puis Louis-Philippe qui est renversé par la révolution de février 1848 et l'installation de la Seconde République. Et donc là, on voit commencer à se mettre en place un fichage des individus, notamment les malfrats. On a une volonté de contrôle de la population. Cependant, ce contrôle de la population est assez problématique. Alors par exemple, ce qui est intéressant, c'est de dire que la population parisienne se plaint de très nombreux étrangers. À cette époque, on est dans la première moitié du 19e siècle, la révolution industrielle commence à s'accélérer, et donc il y a des besoins de main-d'œuvre à Paris qui sont assez grands, et donc il y a des populations qui viennent de rayons plus ou moins vastes. Il y a des gens de la région parisienne, mais il y a aussi des Creusois, enfin, maçons Creusois, et des Auvergnats, et il y a des Allemands et des Polonais. Alors c'est très intéressant parce que quand on regarde dans les archives de la police des années 1830-1840, qu'est-ce qu'ils appellent un Allemand ? Ouais, c'est un Allemand qui a attaqué, nanana. Et en fait, on s'aperçoit que la plupart de ceux qu'on dit Allemands ne sont pas Allemands au sens que nous on donne, mais la plupart sont Alsaciens ou Lorrains. Par ailleurs, il y a des individus, ils sont notés dans les fichiers de police comme étant des Polonais. Or, la Pologne n'existe plus depuis 1815, depuis son démantèlement au Congrès de Vienne. C'est-à-dire que un étranger, c'est quoi dans la première moitié du 19e siècle ? C'est quelqu'un qui vient d'en dehors de la ville. La frontière du royaume n'est pas tant un marqueur clair de ce qu'est un étranger. Pour un Parisien, un Creusois ou un Auvergnat est aussi étranger qu'un Polonais ou un véritable Allemand ou un Italien. C'est quelqu'un qui ne parle pas la même langue, c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes coutumes, c'est quelqu'un qui vient généralement par groupe de 5 ou 10 personnes, essentiellement des hommes, qui viennent chercher du travail, ce sont des hommes jeunes, un peu turbulents, comme ils n'ont pas de famille, du moins ils ne sont pas venus avec leur famille, ce sont des gens qui sont suspectés de vouloir s'en prendre aux femmes locales, ce qui provoque beaucoup de tensions, et ce sont des groupes qui sont plus criminogènes que la moyenne, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont déracinés, sans famille fixe. Vous avez tout un discours qu'on peut qualifier de xénophobe, mais qui en fait ne s'adresse pas vis-à-vis d'étrangers au sens des papiers, mais étrangers au sens culturel, vis-à-vis de groupes provinciaux.
On est toujours en 1848, Cédric, et aux surprises, le concept de préférence nationale date de cette époque-là, c'est pas aussi récent que ce qu'on pourrait le penser.
Oui, il y a des vieilles choses qui remontent. On est dans une période de crise sociale très prononcée, hein, ce qui a été la cause en février 48 hein, des révoltes. Il n'y a pas que ça, mais ça a été l'élément déclencheur. Et on voit dans la mise en place de la Seconde République, la mise en place du ministère du Travail avec Louis Blanc, socialiste Louis Blanc, se retrouve confronté à une foule d'ouvriers parisiens qui demande à ce qu'on expulse les ouvriers allemands qui font concurrence aux ouvriers français en leur prenant le travail et en faisant baisser les salaires. Alors, c'est des choses qu'on retrouve hein, jusqu'à aujourd'hui. Et la police essaye de voir un petit peu qui sont ces ouvriers allemands. Et la plupart, c'est des ouvriers alsaciens, lorrains. Il y a des gros affrontements hein, entre groupes régionaux, en fait, où chacun essaie de se battre pour défendre ses emplois et son travail. On n'a pas encore clairement établi, et ceci jusqu'en 1870, la notion d'étranger n'est pas claire. Elle n'est pas claire pour la population, qui y voit plutôt une différence culturelle qu'une différence d'identité propre, et même au niveau de l'administration, hein, que ce soit l'administration fiscale ou l'administration policière, il n'y a pas de définition claire de ce qu'est un étranger.
Cela dit, ces ouvriers avaient un petit peu d'avance sur l'histoire, puisqu'en 1870, ces pauvres Alsaciens et Lorrains, par la force des choses, passeront sous giron allemand, puisque suite à la défaite de Sedan, la France perd l'Alsace-Lorraine.
Et c'est assez surprenant, c'est de voir que la construction de l'étranger naît véritablement avec la Troisième République. Notamment avec l'un des pères fondateurs, c'est Léon Gambetta, alors grand républicain, sauveur de la République, etc. Et quand on voit les causes qu'il établit pour déterminer les causes de la défaite de 1870-71 face à l'Allemagne. Il dit quoi ? Un, c'est la condamnation du régime précédent, le Second Empire, ils ont été incapables de nous éduquer, nanana. Bon, ça c'est le langage assez classique pour effectivement faire peser la charge sur le régime précédent en disant que c'est de sa faute si on a perdu. Mais quel est le plus grand reproche qu'il fait au Second Empire ? C'est de ne pas avoir interné les 100 000 Allemands qu'il dit être ennemis de l'intérieur, et il aurait fallu les interner. Il voit dans ces Allemands, alors on a vu toute l'imprécision hein, qu'il peut y avoir autour de ce terme, des espions qui ont composé une cinquième colonne qui serait la cause principale de la défaite de la France. Donc là, la Troisième République est un régime très particulier.
À cet égard, le gag suprême, quand même, si tu me permets cette caricature, c'est que c'est quand même un peu grâce aux Schleu et aux Boches qu'on bascule d'un régime monarchique à un régime républicain, puisque les Allemands vainqueurs de 1870 veulent un interlocuteur viable pour négocier, donc force le rétablissement de la République. Donc merci les Boches.
Il y a eu le rétablissement de la République, effectivement Bismarck voulait un gouvernement légalement élu. Alors c'est une majorité monarchiste qui se dégage du suffrage universel en 1871, mais divisée entre légitimistes et orléanistes, ils sont incapables de prendre le pouvoir hein, avec le gag d'Henri de Chambord hein, refusant de rentrer dans Paris avec un drapeau bleu, blanc, rouge. Et finalement, les Républicains emportent la mise aux élections législatives de 1875-1876. Et ce régime a un grand projet, nationale, nationaliste. Il veut faire naître une France forte, comme diraient certains. Cette France forte, elle se base sur un projet très clairement d'homogénéisation du territoire, dont l'un des outils va être l'école gratuite, laïque et obligatoire de Jules Ferry. Ça va donc passer par une homogénéisation culturelle, avec l'imposition de la langue française, qui va réussir à s'imposer en l'espace de 20 ans. C'est-à-dire que être français, c'est parler français, aller à l'école française, avoir une idée de l'histoire et de la géographie française extrêmement claire, et notamment intégrer tout un roman national empilant les héros, hein, les uns derrière les autres, de Vercingétorix à Roland, en passant par Bayard, et bien sûr...
Jeanne d'Arc.
Jeanne d'Arc qui va être effectivement la petite Lorraine, hein, qui se battra non pas pour le roi de France ni pour l'Église, hein, bien sûr on est sous la Troisième République, hein, mais qui se bat pour la France. Il y a un grand projet d'homogénéisation culturelle, il y a un grand projet de créer une identité française. Et elle est d'autant plus importante que la Troisième République est le premier régime véritablement à utiliser le suffrage universel qui existe depuis 1848, hein, qui est en place depuis 1848, qui n'a pas été remis en cause sous le Second Empire, mais qui était purement virtuel puisque les élections n'avaient pas de sens sous le Second Empire. Il fait du suffrage universel la base de la légitimité du régime. Et donc, les gens sont appelés à voter, à faire des choix. Et donc, il faut bien déterminer très clairement qui est français et qui ne l'est pas. En créant une image de la nation, en créant une identité nationale, en créant un peuple souverain, on crée le français. Il n'y a plus de Beaucerons, il n'y a plus de Bretons, il n'y a plus de Corses, de Provençaux ou je ne sais quoi. Il y a les Français. Et donc, en créant une identité, vous créez l'autre. En créant une identité, vous créez l'altérité, vous créez celui qui n'est pas français. Et donc, vous créez l'étranger. On est aussi, au XIXe siècle, à un tournant. C'est-à-dire qu'on est dans un temps de très forte tension internationale. Et forcément, les étrangers n'ont pas forcément bonne presse. Notamment les Allemands qui viennent de nous coller une pilée. Et donc, les Allemands présents en France... Les Alsaciens et les Lorrains, comme tu l'as dit justement, sont devenus des étrangers. Hein. Même ceux qui sont venus en France, hein, par exemple Dreyfus au hasard, sont toujours soupçonnés, Alsaciens, Lorrains présents en France, Allemands, d'être des espions à la solde de l'ennemi juré. Les Italiens sont soupçonnés d'être d'affreux anarchistes, expulsés d'Italie ou menacés en Italie, hein, avec la victoire, hein, du régime légal, hein, du roi Victor Emmanuel, qui a malmené ensuite ses alliés garibaldiens et qui les a éjectés en France. Les Allemands sont des espions, les Italiens sont des anarchistes. Il y a une méfiance vis-à-vis des étrangers, parce qu'ils sont un autre, et cet autre n'est pas forcément le bienvenu, n'a pas forcément une image très sympathique. Alors, ces étrangers... On en a besoin en France. On en a besoin dans la France des années 1880 pour une raison simple. C'est que les Français font très peu d'enfants. Ils font très peu d'enfants pour des raisons très complexes. Et à côté de ça, on a un développement économique certain, notamment un développement industriel. Ce développement industriel touche en priorité l'Est et le Nord de la France, mais aussi la région lyonnaise, la région marseillaise et bien sûr la région parisienne. Donc on a besoin d'énormément de main-d'œuvre étrangère. Elle vient d'où cette main-d'œuvre étrangère ? De l'Italie, de la région de la Pologne. La Pologne n'existe pas, donc ils sont soit russes, soit autrichiens, soit allemands, mais on les dit toujours polonais, et des Belges. S'adjoint à ces trois groupes, tout un tas de populations rurales venues de Russie ou d'Europe centrale qui ont été libérées avec l'abolition du servage dans les années 1860-1870. Donc vous avez des vagues comme ça de populations venant d'Europe centrale, dont une minorité... une forte minorité, sont de confession juive. Alors eux vont transporter sur eux deux altérités, l'altérité nationale et l'altérité religieuse. Alors tous ces gens qui arrivent en France pour travailler posent un défi à la population française, c'est-à-dire qu'à la fois on sait que leur présence est nécessaire pour faire tourner les usines, mais à chaque ralentissement économique, ils sont accusés de faire baisser les salaires, d'être des foyers d'insécurité, parce que là aussi, du moins dans les premières vagues d'immigration, c'est une immigration dite de maintien. Généralement, ce sont des hommes seuls qui viennent par petits groupes et qui ont laissé leur famille au village. Et donc, ils sont suspects hein, de tous les crimes et délits possibles qu'on avait déjà évoqués et qu'on évoquera dans les années 60 vis-à-vis des populations maghrébines, hein, exactement de la même façon. Donc, cette population, elle va être soumise à la pression de tout un tas de ligues qui se mettent en place à la fin du 19e siècle. Ces ligues sont des mouvements qui ne sont pas des partis politiques. C'est-à-dire qu'une ligue n'a pas pour mission de se présenter aux élections, d'avoir des députés. La mission des ligues, c'est de développer certaines thématiques pour faire évoluer le positionnement des partis en place sur ces dites questions.
Des ancêtres des lobbies, quoi.
C'est des ancêtres des lobbies. Alors, les ligues, vous en avez de l'extrême droite à l'extrême gauche, hein, la Ligue des droits de l'homme, etc., née à ce moment-là, la Ligue pour l'enseignement laïque, mais vous avez aussi, par exemple, la Ligue des patriotes, des Rouleds, la Ligue antisémite, qui développe un tas de thématiques xénophobes, racistes et antisémites. La question de l'étranger commence à se poser. Ça commence à être une question sur quel doit être son statut. Est-ce qu'il faut un droit spécifique? Est-ce qu'il faut leur donner des devoirs supplémentaires vis-à-vis de la population nationale? Et cette question se pose de façon d'autant plus cruciale que la République, pour des besoins militaires et fiscaux, a mis en place le droit du sol. C'est-à-dire que souvent, à la deuxième vague d'immigration, puis la troisième, puis la quatrième, on voit le public migratoire changer. C'est-à-dire que ce ne sont plus des hommes seuls qui arrivent, mais souvent des hommes avec des femmes, des familles entières qui passent. Et ces gens-là font leur trou, font racine, hein, et leurs enfants passent par l'école républicaine. Et ils parlent français, ils se mettent à la culture française, hein, alors ils sont la double culture, hein, la double nationalité. Au bout d'une génération, généralement, ils perdent leurs racines d'origine et deviennent de bons Gaulois, hein, pur jus. Tous ces gens-là s'assimilent à l'héritage français, deviennent français. C'est tout un tas de défis qui se posent à la population.
Il ne nous reste plus rien, il ne nous reste plus que la race. C'est dans ce creuset de la race que se fondra la France future, qui regagnera son territoire, qui regagnera son empire, qui regagnera son armée, qui regagnera sa marine, qui regagnera surtout son esprit.
Dans la construction de l'étranger, il y a l'État dans un premier temps, et il y a aussi les médias.
Médias, 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 dans la presse, rime avec stress. Médias, 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 quand la pub te presse ou t'oppresse. Médias, 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 quand la télé rime avec scellé.
Les médias vont poser un questionnement tout à fait nouveau sur l'étranger. La presse connaît une révolution au 19e siècle. Au début du 19e siècle, c'est quoi la presse? Des presses à tout petit tirage, c'est écrit par l'élite et pour l'élite. On y parle de quoi? Des nouvelles économiques, politiques, administratives, hein, c'est des journaux de notaire. Progressivement se développent dans ces journaux notamment ce qu'on appelle les feuilletons. Alors le plus connu, hein, c'est les Mystères de Paris. Et dans ces feuilletons, en général, écrits par l'élite et pour l'élite, vous avez une figure anxiogène, c'est le peuple. C'est-à-dire que vous avez une séparation entre l'élite et le peuple. Et l'élite a peur du peuple. Le peuple, c'est des sauvages, c'est des misérables, c'est des assassins, des violeurs, ils ont des mœurs terrifiantes, ils n'ont aucune éducation, ils sont pauvres, ils sont sales, etc. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, il y a une révolution de la presse. C'est quoi? C'est que l'accès massif à la lecture, avec l'accélération définitive par Ferry, mais ça avait commencé en fait déjà bien avant. La baisse des prix de production des journaux. Grâce aux nouvelles rotatives, ça coûte beaucoup moins cher de produire. L'augmentation de la diffusion, notamment par les nouveaux moyens de transport, par le train, permet d'abaisser les coûts de vente de façon colossale. En plus, avec la Troisième République, vous avez la liberté de la presse, qui permet la démultiplication des journaux.
Et puis à noter aussi que notre fameuse école laïque républicaine et obligatoire, ça fait de plus en plus de gens qui savent lire.
Ils savent lire, et chose incroyable, ils ont envie de lire. On voit une frénésie de lecture, véritablement. C'est le seul média. Hein, c'était le seul média par lequel on pouvait avoir des nouvelles de la France, du monde. Mais les gens aiment lire. Il y a une vraie passion parce qu'ils perçoivent bien que c'est pour eux un outil, certes, d'information, mais aussi de connaissance et d'élévation sociale. Ils le perçoivent assez bien. Et ils lisent beaucoup de journaux. Il y a une multiplication des journaux, mais de façon assez classique. quand vous avez un nouveau média qui apparaît, vous avez une multiplication de l'offre. Et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Concentration, monopolisation par quelques grands groupes qui vont contrôler ce média. Alors on voit ça aujourd'hui à travers la télé ou la radio, hein. On voit effectivement ces grands groupes industriels contrôler et noyauter complètement la production médiatique. Mais là, ça se fait au niveau des journaux. Et progressivement, vous avez quatre grands journaux qui vont structurer le paysage de la presse française. Donc il y a Le Petit Journal, Le Journal, Le Matin et Le Parisien, qui tirent à plus d'un million d'exemplaires jour. Un million d'exemplaires jour, je pense que nos quotidiens d'aujourd'hui aimeraient bien être sur ces tirages-là. Qui dirige ces journaux? Des patrons de presse qui sont des conservateurs. Ce sont des gens riches, qui appartiennent à l'élite sociale. Et quel est leur regard sur le peuple? C'est toujours des sauvages. Ils les considèrent toujours comme des sauvages, des moins que rien, etc. Sauf qu'il y a une nuance, c'est qu'ils ne peuvent plus le dire. Enfin, ils ne peuvent plus l'écrire, parce que vous n'allez pas insulter vos lecteurs. Si vous insultez vos lecteurs, ils ne vont plus vous lire. Et donc, ils sont dans une phase un peu transitoire et problématique. Comment faire passer leurs idées? Voilà, il y a des sauvages, il y a des criminels, et donc il faut de l'ordre, il faut un État fort, il faut un État, vous voyez, qui discipline les gens, mais tout en faisant pas peur aux lecteurs. Cette envie idéologique, véritablement idéologique, va se combiner avec le goût, peut-être inné, je ne sais rien, du sang et du sensationnalisme. C'est l'émergence, à la fin du XIXe siècle, du fait divers. C'est le fait divers qui va progressivement rejeter à la marge et aux dernières pages l'actualité politique, économique, sociale, et on va se concentrer sur le fait divers. Qu'est-ce qui marche ? Le sexe, le viol, les crimes, le sang, l'escroquerie, le vol. Quels sont les viols, crimes que la presse met en avant? Ceux commis par les étrangers et les nomades. C'est-à-dire les gens qui lisent pas ou peu le journal. Voilà, il y a des étrangers, des nomades qui faisaient des crimes et délits, mais dans une proportion, dans un pourcentage qui ne dépassait guère le pourcentage qu'ils représentaient dans le corps de la population. Peut-être un peu plus lié à la surreprésentation qu'on avait décrite avant, mais pas dans des proportions telles qu'on peut les relever dans les journaux. Mais ça permet à ces patrons de presse de droite de dire quoi? Toi, petit ouvrier français, tu es pauvre. Mais tu es quand même un petit propriétaire, t'as quelque chose à défendre, t'as un petit bien, toi, le petit paysan. Regarde qui te menace. L'étranger, le nomade. Et donc se développe une véritable xénophobie populaire, manipulée par ces médias conservateurs, qui vont diffuser une image menaçante, planant sur le marginal, l'apache. Le nomade. Alors lui, ce qu'on lui reproche, c'est les vols d'enfants. Et dans une France qui fait peu d'enfants, c'est un fait divers qui marche à tous les coups. Il y a ça, et puis aussi l'ours qui s'échappe et qui tue les gens dans le public. Comme ils étaient montreurs d'ours, alors l'accident avec l'ours qui s'échappe et qui va tuer les gens dans le public, c'est un leitmotiv qu'on retrouve à nombreuses reprises. Et l'étranger accusé d'à peu près tout et n'importe quoi, du viol.
Le must, c'est l'ours polonais qui viole un enfant dans le public.
Tu exploses les ventes direct. Là,
entre deux encarts, philosophie de comptoir, histoire de serial killer et portrait de star. Dernière paire de shoes, une barre et ça repart. J'en ai bouffé 10 et je finis gros lard. Foule sentimentale, hold up mental. Y'a plus d'étoiles dans le ciel, des crèves la dalle. Lâchez-vous, mais souriez, vous êtes filmé. Apaisez-vous, vous êtes libre, entre guillemets.
Ce discours, il permet en fait de renforcer le discours eux-nous. Y a eux, ceux qui sont différents, l'étranger, le nomade, le marginal, et il y a nous, les Français, quelle que soit sa richesse, quelles que soient nos préférences politiques, on est nous. Ça permet de gommer toute la violence de la police vis-à-vis des mouvements syndicaux, cette violence de l'État qui est extrêmement présente, hein, le massacre de Fourmis, etc., en sont témoins. Ben voilà, on est Français, et on est menacé par un corps étranger. Et donc, ces patrons vont financer, notamment en 1892, une ligue qui a pour nom, alors là tout est dit, la Ligue de Défense du Travail contre les étrangers. Regardez tous les étrangers qui viennent voler votre travail, en plus violer vos enfants, lâcher les ours dans le public, etc. Ce qui permet de dénoncer le laxisme de l'État, cet État républicain honni, hein, tous ces opportunistes, hein, Ferry et compagnie, qui ont donné l'école, la liberté fondamentale, ça permet effectivement de lancer sur eux tous les crimes et délits possibles en les jugeant responsables de la situation.
Tout ça avant l'invention de l'arabe. Hein.
Oui, bon, l'arabe est une figure nouvelle, mais l'étranger voilà, est une figure qui a deux siècles. Hein. Et ensuite, vous mettez la tête que vous voulez dessus. Hein. C'est comme les empereurs romains, on faisait le corps et puis on changeait la tête au fur et à mesure, ben là c'est pareil, vous changez la tête au fur et à mesure, hein, du moment que vous ayez la figure à détruire, c'est bon.
Alors pour désacraliser au passage quand même la noble figure de l'ancêtre de Luc Ferry, inventeur de notre fameuse école laïque républicaine et obligatoire, l'objectif il est non seulement évidemment d'apprendre à lire et à compter au peuple, mais aussi de sédentariser les populations, hein. C'est que de rendre l'école obligatoire, ça veut dire aussi fixer des populations sur un territoire, et donc les contrôler.
C'est la vieille méfiance entre nomades et sédentaires. C'est-à-dire que le nomade inquiète parce que effectivement il est libre. Pour lui, la frontière n'a pas de sens. Alors, c'est peut-être une envie refoulée du sédentaire, hein, cette aventure, ce mouvement. Et donc, tous les outils qui sont mis en place par la République vont progressivement s'attacher à vouloir contrôler, fixer, sédentariser toutes les populations migrantes. Que ce soit les ouvriers, qui changeaient énormément d'usines jusqu'à la fin du 19e siècle. Vous avez des populations mouvantes, plus connu en Germinal, on voit ce lentier effectivement circulant d'usine à usine, et bien qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre le carnet ouvrier, quand vous l'êtes embauché, ben, il faut le signer, ce qui permet de contrôler la population, à savoir si vous n'êtes pas un sale gréviste, un sale manifestant, un anarchiste, ou je ne sais quoi. Et donc les nomades, tziganes, etc., sont une partie de ces nomades, c'est pas la seule partie des nomades qu'on veut fixer, sédentariser, contrôler. Et justement, ces républicains vont faire du suivisme, en fait. C'est-à-dire que face aux ignominies des ligues et de la presse contrôlée par les magnats de droite, les républicains, ils font du suivisme. Ils ont peur de perdre leur poste, ils ont peur de perdre la République aussi. Et donc, on a un durcissement des positionnements républicains, notamment dans la vague des tensions anarchistes, hein, provoquées par les attentats des anarchistes. Ce suivisme des républicains, suivant ainsi la devise de Thiers, hein, la République sera conservatrice ou ne sera pas, glisse progressivement vers des mesures sécuritaires qui sont à destination première des étrangers. Ce glissement vers les mesures sécuritaires, le 8 août 1893, est voté pour la première fois une loi sur la condition de séjour des étrangers. Pour rentrer sur le territoire national, pour y rester, il faut obéir à un certain nombre de lois, prérogatives, devoirs particuliers. C'est-à-dire que l'étranger a plus de devoirs que le national. Pas seulement respecter la loi, bon, ça, c'est pour tout le monde, mais il doit faire des choses en plus, il doit effectivement montrer patte blanche. Et pour qui? Pour l'étranger. Ensuite, en 1895, il y a l'interdiction d'établissement pour les médecins étrangers. Les professions hautement qualifiées ne sont pas les dernières à vouloir se protéger. C'est pas seulement les ouvriers, parce que souvent, effectivement, on regarde un peu les gros yeux en disant « Oh mon Dieu, cette xénophobie populaire, le peuple pas éduqué, regardez, ils s'en prennent aux premiers étrangers venus, hein, dans un langage très bobo. » Non, on voit les médecins, on verra dans les années 30 les avocats, les notaires, sont les premiers à protéger leur métier contre les étrangers.
Et heureusement d'ailleurs qu'il y a eu un assouplissement de ces règles, parce que je crois que le plus fameux de nos Hongrois, son papy exerçait une profession libérale, et il me semble que si les lois étaient restées aussi strictes, on n'aurait peut-être pas eu un président de la République d'origine hongroise.
Et aussi un directeur du FMI, hein, connu pour ses mœurs légères, dont l'arrière-grand-père est venu de Russie, me semble, hein, c'était la Pologne, hein, mais c'était la Russie à l'époque, et il était devenu médecin dans le Loir-et-Cher. Donc Strauss, hein, il s'appelait Strauss, Kahn, c'est venu après, hein, par un mariage, donc était médecin, hein, et il est arrivé juste avant que ces lois ne tombent, et il est devenu un médecin reconnu et estimé, hein, dans toute la contrée où il a exercé pendant de nombreuses années.
Comme quoi, tu vois, nos conservateurs de la fin du 19e siècle, ils n'avaient pas si tort, hein, parce que ces étrangers, tu leur donnes ça, puis ils te prennent ça après.
Il devient directeur de FMI, en plus.
Et donc, après les étrangers, émerge à l'Assemblée nationale une demande sur le dénombrement des bohémiens. On demande à la police et la gendarmerie de dénombrer les bohémiens qui seraient donc une espèce de menace hein, qu'il faudrait chiffrer, quantifier et encadrer. On arrive au chiffre de 45 000 après enquête. Ce chiffre de 45 000, il pose tout un tas de problèmes. Par définition, un nomade, il bouge. En fait, souvent, ils ont été comptés deux, voire trois fois. Ce chiffre de 45 000 est largement surestimé. Et cet échec du dénombrement des bohémiens prouve quoi ? Première chose, que l'État est encore incapable de contrôler des populations comme celle-ci. Deux, qu'on reste encore dans un régime politique encore très départementalisé au niveau de la sécurité. On est encore dans une dominante rurale, dans un monde rural, et donc c'est la gendarmerie qui assure la sécurité sur le territoire. Et cette gendarmerie fonctionne surtout à l'échelle départementale. Donc ils connaissent très bien ce qui se passe dans leur département, dans leur canton, mais ce qui se passe tout compte fait à 100 km, ils n'en savent trop rien. Et donc, dans un souci d'efficacité. Et je pense que là, il faut vraiment tenir compte du projet scientiste qu'est le projet républicain. Ce sont vraiment des gens qui sont pétris par l'idée d'un progrès scientifique qui emmènera un progrès humain et que, justement, ce progrès scientifique et ce progrès humain, il se doit de contrôler tous ces éléments jugés troublants pour l'ordre public, bien sûr totalement sur des a priori. Hein. Mais ces étrangers, ces bohémiens, hein, dont souvent ils sont là depuis plusieurs siècles, ils sont gênants, donc il faut les contrôler. Alors, il y a un docteur qui va se mettre au service de la République, c'est le docteur Bertillon. Son objectif, c'est de créer un moyen objectif de contrôler la population pour s'assurer de l'ordre public. Bertillon va développer l'anthropométrie et la phrénologie. Par exemple, il ne croit pas du tout aux empreintes digitales. Ça sera rajouté après. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la taille des crânes. Alors, on est vraiment dans la dimension très raciste de l'époque. Hein. La bosse des maths, la bosse du crime. Bon, remarquez, on nous fait le même coup avec les gènes aujourd'hui. Hein. Une science qui permettrait, d'après votre physionomie, de déterminer hein, vos penchants, hein, soit positifs, soit négatifs pour le crime ou les mathématiques. Je ne sais pas quel est le plus négatif des deux. En tout cas...
Heureusement qu'on n'a pas eu récemment un président de la République qui voulait repérer la criminalité dès la maternelle en invoquant qu'il y avait là des facteurs génétiques. Hein, parce que ces choses-là, bien sûr, ce n'est pas du tout la société. Hein, c'est inné.
Il y a une collaboration très claire entre les scientifiques et l'État. L'État, en fait, s'appuie sur des pseudo-sciences ou des dérivés de vraies sciences, hein, comme la génétique, bon, c'est une vraie science, mais d'en faire, de passer du langage médical au langage social. Et donc, on a l'espèce de volonté d'épurer la société qui se base sur des critères scientifiques qui sont jugés indépassables, objectifs, scientifiques, et auxquels le bon peuple, bien sûr, ne peut rien comprendre. Vous comprenez bien, c'est scientifique. Si un docteur vous le dit, si un médecin vous le dit, vous n'avez pas le contraire, parce que vous n'avez pas cette science-là. Hier comme aujourd'hui, c'est la même tactique. Hein. C'est s'appuyer sur le milieu scientifique qui va cautionner en fait des politiques infâmes et totalement subjectifs. Et donc le docteur Bertillon, par ses recherches, met en place en 1912 un fichier anthropométrique centralisé des nomades avec carnet individuel à faire viser par le maire à chaque entrée et installation sur le territoire de la commune. Alors ce carnet individuel et ce fichier centralisé, il a deux photos. Une photo de face et une photo de profil, comme pour les criminels. Hein. Et finalement, le docteur Bertillon se voit imposer les empreintes digitales, parce que les formes de crâne et tout, c'est trop compliqué à enregistrer. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'on enregistre là une population, non pas parce qu'elle a commis un délit, mais parce qu'elle est potentiellement fauteur de troubles. Et c'est au nom de cette potentialité criminogène qu'on va l'afficher et l'identifier. C'est Minority Report, version 19e siècle. Hein. Vous voyez, il faut contrôler les individus, les ficher totalement, et au cas où ils commettraient un crime, qu'on puisse les arrêter plus facilement. La Première Guerre mondiale va accélérer le phénomène. La Première Guerre mondiale fait ressurgir toutes les craintes d'espionnage. Et donc, bien sûr, les étrangers, notamment les gens d'origine germanique, même les Alsaciens et Lorrains, deviennent suspects. Alors, on ne va pas interner massivement hein, des gens d'origine allemande, parce que c'est très difficile à faire, mais en 1917 est imposée pour la première fois la carte d'identité obligatoire pour les seuls étrangers. Tous les étrangers présents sur le territoire français sont obligés d'avoir une carte d'identité. C'est-à-dire que le fait d'avoir une carte d'identité, bon, ça se discute, hein, mais le fait de l'imposer qu'aux seuls étrangers, on voit bien là le cadre d'une mesure discriminatoire. Très clairement, c'est que ces gens-là sont une menace pour l'ordre public. Et la Première Guerre mondiale, à bien des égards, a marqué un tournant. Et là, sur la question de la sécurité, elle a marqué un tournant. L'État veut définitivement contrôler les individus, tous les individus, contrôler au niveau des mœurs, contrôler au niveau de leurs activités publiques et privées. Et bien sûr, les étrangers et les nomades sont les premiers à être visés par ces mesures. Loin de rassurer la population, qui a été mise sous tension par la presse, par les politiques, par les lignes, etc., ces mesures qui sont censées protéger les Français excitent leurs inquiétudes. Parce que leur logique, c'est de dire quoi ? Si on les contrôle, c'est qu'on a de bonnes raisons de les contrôler. C'est xénophobie d'État. On peut parler de xénophobie d'État. Au lieu de calmer la xénophobie populaire et de l'atténuer, ne fait que l'exciter et la surexciter. Et justement, aujourd'hui, on peut s'interroger sur la xénophobie d'État développée par le gouvernement Sarkozy. Cette xénophobie populaire, elle éclate de façon très violente à la fin du XIXe siècle, de façon spontanée. Alors on a de multiples agressions vis-à-vis d'étrangers, notamment contre les Juifs. Alors ça a été bien sûr l'affaire Dreyfus. Mais dans les attaques anti-étrangers, la plus connue, ce sont les incidents d'Aigues Mortes dans la journée du 16 au 17 août 1893, où suite à une querelle d'amoureux entre un ouvrier italien et une petite provençale, le frère veut venger l'honneur de sa sœur. La dispute est violente, mais bon, ça s'arrête là. Le frère tarde à revenir, il fait un crochet, et la rumeur court que ce jeune homme aurait été tué par les Italiens. Et pour se venger, une foule de 300 à 400 ouvriers des marais salants d'Aigues Mortes se presse contre les ouvriers italiens, en tue 17, font 150 blessés. Et cette foule là, qui va tuer 17 Italiens arbore deux drapeaux en tête. Le drapeau bleu-blanc-rouge et le drapeau rouge. Les revendications étaient à la fois nationalistes, hein, la xénophobie pure et dure contre les Italiens. C'était aussi des revendications vis-à-vis des salaires et du travail en disant que ces ouvriers italiens venaient voler le pain des Français. On a là l'exacerbation des tensions nationalistes, des tensions sociales et tout le travail justement des patrons de faire dériver la colère populaire contre les étrangers. Comme ça, ça permet de détourner la couleur des vrais responsables de la situation, à savoir justement les magnats de l'industrie et de la presse qui sont à peu près les mêmes ou du moins qui se connaissent fort bien.
Je te propose, Cédric, qu'on finisse là notre premier volet de cette petite histoire de la construction de l'image de l'étranger. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode de la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Merci à toi.
Merci, salut.
Terminé.
Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.